avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2025 en direct de 19h à 20h et vous pourrez retrouver cette émission demain en rediffusion de 9h à 10h sur Radio Galère ainsi que sur Spotify lorsque vous cherchez la Forêt des Possibles. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leurs engagements et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation. Par les temps qui courent et où l'éco-anxiété peut être particulièrement élevée, surtout lorsque l'on voit ce qui se passe aux États-Unis, nous pensons que nous avons notre juste place à prendre. Du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte à la fois nos besoins humains et les ressources de la planète. Oui, nous le pensons, et c'est à notre micro nos invités qui viennent témoigner pour démontrer qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je suis Marin Moffret, et j'ai le plaisir ce soir d'être entouré par Elissa Guyon, dont c'est la toute première fois. Bonsoir Elissa.
Bonsoir.
Par Claire Mailloux. Bonsoir Claire.
Bonsoir Marin, bonsoir l'équipe et bonsoir Raphaël.
Et Raphaël que je présenterai en dernier. Et en régie, nous avons Félix Tédelin.
Bonsoir tout le monde.
Et Mathieu Cheminal.
Et bonsoir à toutes et tous.
Et notre invité du soir, c'est toi, Raphaël Torres. Tu travailles au LICA et notre question du soir, c'est de savoir en quoi l'éthique dans l'IA est une affaire politique. Et donc, pour répondre à cette question, ce que nous allons proposer, c'est, comme à chaque fois, de pouvoir un peu remonter aux racines de ton engagement. Comment est-ce que ça s'ancre à Marseille? Et puis, comment est-ce que, à ton échelle, tu participes à transformer la société? Et donc, sans plus attendre, ce que je te propose, c'est de pouvoir un peu commencer par te présenter et finalement présenter les racines qui ont amené jusqu'à ton engagement actuel.
Ben, bonsoir et déjà merci pour l'invitation. Moi, je suis ingénieur de formation en traitement du signal. Donc, j'ai un background technique. J'ai fait du machine learning, de l'IA pendant une dizaine d'années. Et à travers ce parcours-là et à travers mes différentes expériences, je me suis spécialisé dans le domaine de l'éthique de l'IA. On va en parler, on va préciser un peu ce que ça veut dire. Mais du coup, forcément, ça a trait à des sujets en lien avec la transition sociale, la transition écologique et comment on fait de l'intelligence artificielle qui puisse s'inscrire dans cette transition.
Effectivement, on va avoir toute la soirée pour en parler au cours de cette émission. Et là, en fait, ce qui nous intéresse dans un premier temps, finalement, c'est de savoir un peu quel a été ton parcours. Et lorsqu'on préparait l'émission, tu me disais que tu étais ingénieur de formation, que tu avais travaillé sur des enjeux algorithmiques et que finalement, c'est la réalité du terrain de ce que tu avais pu observer tant par tes études avec UCLA que dans des boîtes. Je ne sais pas si j'ai le droit de les nommer, donc tu prendras souverainement ce choix ou pas. NXP.
Tout à fait.
Le fait que tu avais vu qu'il y avait des trous dans la raquette. Donc, je te laisse préciser ce que ça signifie pour toi.
Ouais. Donc, effectivement, j'ai terminé mes études à UCLA, qui est la University of California, Los Angeles, dans un laboratoire de traitement de la parole. Où on utilisait des algorithmes d'IA pour faire de la reconnaissance vocale, pour faire... Moi, je travaillais plus spécifiquement sur la reconnaissance du chant des oiseaux dans les parcs nationaux. Et dans ce parcours-là, dans des instituts de recherche, on était vraiment amené à publier vraiment avec une pression de publication, de devoir voilà, produire des publications de façon massive. Donc très concentré sur développer des algos, sur la science dure, sur ce que c'est que l'IA, etc. Et en revenant en France après, j'ai effectivement travaillé à NXP, qui est une société de semi-conducteurs, donc, parmi les géants dans le domaine. Et là-dedans, je faisais de l'IA embarqué pour de la téléphonie mobile. Donc, dans les téléphones, tous les algorithmes qui permettent de réduire le bruit dans les conversations, de reconnaître dans quel contexte on est, etc., avec voilà, traitement de l'audio pour faire ça. Pareil, avec des cycles de production super courts. On travaille dans la téléphonie mobile pour des géants type Samsung, Huawei, etc., etc. Et là-dedans, on a des cycles de production de 1 an. Donc souvent, il faut mettre à jour les algos tous les 6 mois, etc. Et donc, que ça soit dans les instituts de recherche ou dans les grandes entreprises, il y avait vraiment un sujet de regarder l'IA d'un point de vue vraiment technique, de produire des meilleurs algorithmes au sens de la performance. Et moi, j'étais frustré en tant qu'ingénieur de pas qu'on se penche pas sur les questions qui étaient sur les externalités de ces algorithmes, qu'est-ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'ils font sur notre vie, sur notre quotidien, etc., etc. Et dans ma démarche personnelle, moi, j'avais un peu une dissociation entre développer ces algorithmes-là d'un côté et de l'autre côté avoir des discussions dans mon cercle privé avec mes amis de ce que je pouvais lire, enfin ce qu'on voilà, notre réalité à tous et à toutes de ce qu'on se trouve aujourd'hui dans l'actualité et des sujets qui y sont préoccupants. Et donc c'est en ça que j'appelle ça un trou dans la raquette, au sens où pour moi il y avait un sujet, alors je ne savais pas le nommer à l'époque, mais qui est un sujet éthique, qui est quelles sont un peu ces questions morales qu'il y a autour de l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça. Et donc suite à ça, j'ai décidé de me spécialiser sur cette question-là et de rejoindre le LICA pour aborder ce sujet-là.
Et ça, le LICA, on en parlera juste après. Mais ce qui est intéressant là, c'est que finalement, en fait, ce dont tu nous parles, c'est une forme de dissonance cognitive finalement qu'un certain nombre de personnes peuvent ressentir entre une prise de conscience intellectuelle et voire même sensitive, spirituelle, avec ce que tu es amené à faire au travail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en préparant l'émission, tu nous expliquais que finalement aussi cette prise de conscience, elle vient par un certain nombre d'autres activités que tu as, ou d'activités ou aspirations, notamment ton rapport à la musique et ton amour de la nature, qui, j'imagine, venait contrebalancer encore plus fort avec cet enjeu de dissonance de se dire « mais qu'est-ce que je suis en train de faire au travail ?» Est-ce que tu veux nous préciser finalement un peu le lien que tu as fait avec tout ça ?
Oui, avec plaisir. Du coup, sur l'aspect musique, donc moi, dans une des activités que je mène par ailleurs, j'ai un studio de musique avec mon frère et on fait de la musique. Notamment, on a produit de la musique pour des jeux vidéo. On faisait des bandes son. Aujourd'hui, on fait de la musique live, on fait de la musique studio. Donc moi, j'ai une forte sensibilité sur ce sujet des arts de manière générale. Effectivement aussi un rapport à la nature que j'entretiens et l'IA est arrivé sur ces sujets-là, est arrivé et a posé des questions fortes sur les sujets artistiques. Aujourd'hui, avec les IA génératives, on a vraiment ces questions de la gestion de la propriété intellectuelle, des technologies qui mettent en tension les métiers créatifs, l'empreinte écologique de ces technologies-là. Donc mon boulot qui venait un peu mettre en tension mes passions, mais des choses qui m'animaient. Et donc du coup on parlait de dissociation cognitive, là j'étais vraiment plein dedans et je me suis posé la question personnellement, est-ce qu'il existe une IA qui soit compatible avec les enjeux écologiques, les enjeux sociaux, les métiers créatifs, etc.
Ça, finalement, c'est notre problématique. C'est parfait que tu le formules comme ça. C'est finalement en allant en racine de ton parcours. La question actuelle, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir une IA qui soit éthique, une IA qui puisse être actif dans la société, prendre sa place. Et Claire, tu veux formuler une question par rapport à ça?
Une question qui me trotte en tête là, depuis que tu nous partages ton parcours, c'est quand tu travailles dans cette grosse entreprise dont le nom m'échappe, parce que je ne la connaissais pas, ils ne se sont pas posé la question de l'éthique dans l'IA, parce que j'imagine qu'ils sont à la pointe, qu'ils ont des ingénieurs très brillants qui travaillent avec eux. L'éthique n'est pas un sujet qui peut être abordé en interne?
Alors, c'est le sujet de l'éthique de l'IA, il existe depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a de la recherche sur le sujet. Ça fait beaucoup moins longtemps qu'il est connu du grand public et qu'il est pris en considération dans l'industrie. Ça demande de modifier quand même pas mal de choses dans la façon qu'on a développé des algorithmes. Il y a plein de méthodologies, notamment nous au LICA on travaille sur l'ethics by design, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler par la suite, mais du coup ça demande de modifier beaucoup de choses, ça prend du temps et aujourd'hui effectivement ces processus ne sont pas encore vraiment dans beaucoup d'entreprises. Ça c'est une partie de la réponse, et une autre c'est qu'il y a une telle concurrence, une telle compétition, que c'est difficile aujourd'hui de prendre en considération ces sujets éthiques. Ça demande de former ces ingénieurs à ces sujets, ça demande de délayer parfois la mise en production, donc c'est du budget, c'est vraiment un sujet assez complexe, et moi pour avoir travaillé avec ces équipes de développement et avoir été sur la réalité de terrain, on peut pas jeter la pierre aux entreprises aussi qui font ce qu'elles peuvent aussi dans le développement de ces algorithmes, des fois avec un sujet qui change, enfin les problématiques, et on en découvre, enfin les actualités arrivent au fur et à mesure, on découvre les choses tous les jours, quoi. Donc c'est assez difficile aussi de suivre à ça et de réussir à faire des solutions qui prennent en considération tous ces enjeux-là qu'on découvre là, quoi. Okay.
Bah, on le voit bien là à l'échelle géopolitique actuelle, sans que ça soit spécifiquement sur l'IA, mais on reviendra dessus après, que quand il y a des enjeux de tension et de forte concurrence, comme on peut le voir par différents pôles, les Russes, les Chinois, les Américains, les Européens, qui ont des intérêts très distendus, on voit bien par exemple que l'Europe en ce moment est en train de faire sauter un certain nombre de choses, notamment la CSRD sur des aspects éthiques. Donc là, on n'est pas sur l'IA, mais on est finalement sur le positionnement d'une entreprise, justement pour être plus compétitive dans des rapports assez féroces de rapports de force. Et donc ça pose des questions assez fondamentales du comment est-ce qu'on met de l'éthique dans un rapport de compétition. Et finalement, si la question c'est la compétition, comment est-ce qu'on arrive à changer un peu ce prisme-là, promouvoir des imaginaires plus coopératifs, on pourra en parler après. Mais donc maintenant que
pour rebondir sur l'aspect un peu compétition, aujourd'hui le marché européen a pris la décision, en tout cas, d'être compétitif sur le sujet de l'IA en se positionnant comme un acteur incontournable de l'IA éthique. Et notamment l'IA Act, c'est la première régulation à l'échelle d'un territoire aussi grand qu'un continent, à réguler le comportement des IA, donc ce que dit aujourd'hui l'Europe en termes de concurrence par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, c'est nous, la carte qu'on va jouer, ça va être justement de produire des IA sur notre territoire qui vont être encadrées d'un point de vue éthique.
Tout en posant quand même un enjeu de compétition, et ça fait partie du marché européen qui met tout en compétition. Et donc ça a une incidence de dire on n'a pas envie de fausser les accès au marché, et en même temps c'est toujours des rapports de compétition qui font qu'il y en aura un qui gagne sur l'autre. Mais ce que je propose maintenant, c'est de pouvoir passer du moi au nous, donc de ton parcours, Raphaël, vers ce que tu fais au quotidien. Tu travailles au LICA. Le LICA, qui est très lié avec une structure que nous avons reçue en juillet dernier, qui s'appelle le Tiers Lab de Transition, c'est les mêmes personnes plus ou moins sur le même lieu, mais pour celles et ceux qui ne sont pas au quotidien ni au Tiers Lab de Transition ni au LICA, parfois on se demande quelle peut être la différence. Donc dans un premier temps, ce que je vais te proposer, c'est tout simplement de nous présenter ce qu'est le LICA.
Avec plaisir. Alors oui, effectivement, il y a une forte connivence entre LICA et Tiers Lab des Transitions. Donc le LICA, c'est une société coopérative. On est aujourd'hui 22, ça existe depuis 7 ans sur Marseille, et c'est le laboratoire d'intelligence collective et artificielle. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise donc deux outils. D'un côté, l'intelligence collective, donc la façon qu'on a de coopérer ensemble. Donc ça peut être juste le sujet de, dans une réunion, comment on travaille ensemble, jusqu'à l'échelle de comment un consortium va établir sa gouvernance. Donc ça vraiment à différents types d'échelles. Intelligence collective d'un côté et intelligence artificielle de l'autre, qui sont les outils aujourd'hui pour adresser la complexité du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on a des territoires qui sont immenses, beaucoup de monde à adresser, avec des données hyper hétérogènes. Donc l'IA aujourd'hui est un super outil pour pouvoir adresser la complexité de ces sujets-là. Et donc avec intelligence collective et intelligence artificielle, on adresse les enjeux de transition. Donc on aide les acteurs du territoire, qu'ils soient des collectivités, des entreprises, on accompagne aussi les citoyens sur ces enjeux de transition avec notre double expertise, intelligence collective et intelligence artificielle.
Et alors là, tout à l'heure, on a parlé de notre problématique qui était comment est-ce que l'IA éthique était un sujet politique, mais ça peut être pertinent aussi de proposer une définition. L'IA, c'est devenu un sujet presque tarte à la crème, on en parle tout le temps, surtout en ce moment dans l'actualité avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis, avec un certain retournement des propriétaires dirigeants des GAFAM qui sont plus agressifs et qui veulent réajouter une dose d'agressivité dans les algorithmes pour noter les paroles de Mark Zuckerberg de la semaine. Mais avant de vraiment rentrer dans le fond, de quoi on parle ?
Alors effectivement, en plus, derrière intelligence artificielle, on met énormément de choses et c'est entretenu, hein, c'est un buzzword, c'est un mot qui est utilisé pour faire résonner et faire du clic. Moi, une définition que j'aime bien, assez simple, c'est l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui tend à imiter de façon artificielle l'intelligence humaine. Donc le but de cette discipline-là, c'est de comprendre comment marche notre intelligence en la reproduisant en dehors de notre corps. Et donc du coup, ça implique plein de sciences, ça peut être des neurosciences, de la robotique, de l'informatique, etc. Et aujourd'hui, on fait assez vite le raccourci de intelligence artificielle, c'est de l'informatique et c'est des algorithmes qui vont avoir des comportements qui imite notre intelligence. Donc ça va être de la recommandation, ça va être de la traduction, etc. Donc aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, de façon assez, on fait assez le raccourci assez rapidement d'algorithmes qui font des choses que nous, on pourrait faire, qu'on trouve, des tâches qu'on trouve intelligentes.
Ok, donc ça c'était le premier terme, l'intelligence artificielle. Et on parle d'éthique. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est que l'éthique de manière générale ? Et puis ensuite, en quoi ça s'applique à cette science et cette compétence, ce domaine dont tu nous parlais à l'instant, de la reproduction artificielle de l'intelligence humaine.
Ouais. L'intelligence artificielle, donc éthique, c'est assez simplement le fait de doter donc, du coup, ces intelligences artificielles de principes moraux dans leurs usages, dans leur développement. Donc en fait, de façon assez simple, c'est tout simplement qu'est-ce qu'une IA a le droit de faire, a pas le droit de faire, qu'est-ce qu'elle devrait faire, qu'est-ce qu'elle devrait pas faire. Et c'est cette question-là. En fait, faire de l'IA éthique, c'est se poser les questions de qu'est-ce qu'on devrait pouvoir développer comme IA, qu'est-ce qu'on devrait pouvoir faire et utiliser comme IA. C'est cadrer ces usages-là.
Et alors, est-ce que peut-être que tu pourrais nous donner des exemples d'IA non éthiques ?
Bien sûr.
Qui peuvent nous donner... Nous sauter aux yeux en disant « Ah oui, évidemment qu'il faut apporter une approche éthique sur ces questions parce que sinon les effets pervers seraient nombreux. »
Ouais. Un exemple qui fait cas d'école, c'est le robot Tai de Microsoft qui a maintenant pas mal d'années. Je pense que c'était... Ouais, il y a au moins 6 ans de mémoire. Ben c'est un chatbot, donc un peu comme ChatGPT, c'est une IA avec laquelle vous pouvez avoir une conversation, et que Microsoft a développé et qu'ils avaient branché à Twitter. Donc c'était un robot qui pouvait tweeter. Et qui avait comme autre fonctionnalité aussi la possibilité de... être interactif avec la communauté, c'est-à-dire que vous lui parliez, il mettait à jour sa compréhension du monde et vous répondez en mettant à jour. Donc c'est un peu comme avec un enfant, vous interagissez, vous lui apprenez des choses et sa compréhension de son environnement évolue. Et au bout de 48 heures, les tweets de Tai était néo-nazi, était sexiste. Je ne le dirai pas à cette antenne, mais voilà, c'était vraiment problématique. Et donc Microsoft a décidé de débrancher après quelques jours cette solution-là. Parce que en fait, la communauté lui a fait apprendre des choses erronées, etc. Et donc du coup, on avait une solution là qui est évidente dans son cadre non éthique, mais en fait, ce qu'on a dans la réalité de tous les jours, c'est quelque chose un peu plus nuancé. En fait, c'est rare qu'on fasse des choses qui font autant scandale. Ça arrive. Et c'est rare qu'il y ait des acteurs qui veulent faire réellement le mal. Ce qu'on a comme réalité terrain, c'est des externalités négatives qui n'étaient pas forcément imaginées et qui sont... Je peux donner un exemple concret là-dessus, qui est aujourd'hui quelque chose qu'on peut voir. C'est par exemple si vous faites de la recommandation de profil dans une entreprise. Donc imaginez, vous voulez recruter un nouveau profil dans une boîte. Donc on prend une boîte, par exemple, de la tech, et on dit je veux un nouvel ingénieur dans mon entreprise. Ce qu'on pourrait faire avec de l'IA, c'était de montrer tous les CV qu'on a déjà recrutés dans l'entreprise et qui l'IA me recommande de nouveaux CV. Donc ça, c'est une solution qui existe, qui est pensée chez les RH. Le problème de ça, c'est aujourd'hui, la réalité des terrains fait que dans les entreprises de la tech, on a une surreprésentativité masculine. Donc on a beaucoup de profils masculins, souvent issus des grandes écoles d'ingénieurs, etc. Et donc les algorithmes d'IA qui vont voir ça vont reproduire ces biais-là et vont recommander des profils qui sont plutôt des hommes, plutôt issus de grandes écoles, etc. Et donc vont perpétuer ces formes de discrimination.
Oui, Elissa.
J'ai l'impression que dans ce dont tu parles là, il y a quand même comment on nourrit du coup notre intelligence artificielle et où est-ce qu'on lui propose de puiser ces informations. Très clairement, si c'est sur Twitter, il y a de grandes chances que ça parte vite en cacahuète, mais j'imagine qu'on peut aussi lui donner des critères de sélection. Par exemple, si on reprend le cas des CV, on pourrait peut-être lui demander de ne pas prendre en compte le genre mentionné, voilà. Et du coup, ça me questionne sur comment éthiquement on propose à notre IA de se nourrir et quelle information on lui demande d'aller piocher, en fait.
Oui. Pour rebondir sur cette question du « on pourrait ne pas mettre le genre dans le CV », c'est quelque chose qu'on entend souvent et de dire « en fait, le problème, il est simple, vous ne mettez pas le genre et il n'y aura pas de discrimination de genre ». Les algorithmes d'IA, c'est des modèles probabilistes, c'est des modèles qui sont capables de faire du lien entre différentes informations. Dans un CV, si vous mettez que vous aimez le foot, si vous dites que vous êtes, etc. Je donne un peu des stéréotypes, mais vous voyez où je veux en venir. En fait, l'IA est capable de refaire des liens de façon indirecte et de deviner que le CV est masculin parce que de façon probabiliste, dans l'énorme base de données qu'il a vue, les profils qui aimaient le foot, c'était des profils masculins. Et donc répétez ça comme de cette manière-là. Donc c'est un vrai sujet, c'est un sujet complexe de comment gérer ces bases de données, quelle information prendre, quelle information ne pas prendre, comment filtrer tout ça. C'est un problème technique. Et il y a un autre sujet à ça, nous c'est sur les sujets sur lesquels on travaille, hein, donc c'est des sujets assez passionnants, mais... En dehors de la base de données, il y a aussi la façon qu'on a de concevoir l'algorithme, d'imaginer le problème, de poser le problème à l'IA. Peut-être que de poser le problème de cette façon-là fait que même avec la meilleure base de données, il ne pourra pas répondre de la bonne façon. Je donne un exemple très simple là-dessus, parce qu'on est sur la question du genre. Si vous demandez à un algo d'IA, par exemple, de reconnaître sur un téléphone si c'est un homme ou une femme qui parle, par exemple, pour pouvoir traiter l'audio et dire si c'est un homme, il y aura plus de basses fréquences, donc je vais un peu nettoyer dans les basses fréquences. Si c'est une femme, il y aura plus de hautes fréquences, je vais, etc. Donc on pourrait imaginer de vouloir faire ça et avoir un algorithme qui identifie les hommes et la femme par la reconnaissance vocale. Et bien la façon que j'ai de poser le problème comme ça fait que déjà, même s'il a 100% de performance là-dessus, il considère que le problème il est binarisé et qu'il faut reconnaître des hommes et des femmes, et les gens qui ne se reconnaissent pas comme des hommes et des femmes, ils sont discriminés par la solution. Et aussi parce que moi, quand je pose le problème de cette façon-là, je considère que on peut reconnaître le genre avec la voix. Or, le genre n'est pas une information, enfin la voix n'est pas une information biométrique. On ne peut pas de la voix détecter quel est votre sexe biologique. Et donc du coup, en tant qu'ingénieur, en tant qu'architecte de ces solutions, on a tendance à vouloir faire ces raccourcis-là. Mais là, on est vraiment en plein dans le cœur des sujets éthiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de demander aux IA, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, pas faire, sur quelle base de données. Voilà. Là, c'est vraiment le sujet de conception de ces IA-là.
Moi, ça me donnerait envie de te poser une question que j'hésite à te poser tout à l'heure, mais je peux le faire maintenant. Parce que là, j'ai l'impression que finalement, avec ce que tu nous expliques, il y a comment est-ce qu'on va pouvoir calibrer l'algorithme pour essayer de faire en sorte qu'il puisse être éthique en tenant compte d'un certain nombre de critères pour essayer qu'il ait une approche assez fine. C'est comme ça que je l'entends. Et en même temps, on nous renvoie aussi en permanence, via les réseaux sociaux notamment, que les algorithmes nous donnent également, nous, une certaine approche du monde. Et donc finalement, nous aussi, nous conditionnent dans le regard qu'on porte sur le monde, sur nous-mêmes, sur la société, et parfois peuvent nous enfermer dans des bulles. Et j'ai l'impression, enfin vous voyez pas mes mains, mais imaginez deux mains qui sont en train de se répondre l'une l'autre, que finalement l'algorithme va avoir une incidence sur la manière dont on perçoit le monde, qui lui-même va avoir une incidence sur l'algorithme, et qu'on est rentré dans une espèce de jeu de ping-pong. Je sais pas si c'est ce sentiment que tu as, mais où moi je le fais à titre j'en fais l'expérience personnelle quand je travaille parfois avec ChatGPT. Je lui donne des informations, il me répond, je lui rends, il me répond, je lui rends, et j'ai l'impression que les deux se nourrissent.
Tout à fait. On a aujourd'hui clairement, on a des IA qui influencent le débat public, qui influencent nos goûts, nos préférences. Par exemple, on fait tous cette expérience-là sur les réseaux sociaux. Quand on se balade sur Facebook, sur Instagram, etc., on a des algorithmes de recommandation qui vont nous pousser du contenu. Et donc, du coup, ce qu'on consomme, ce qu'on regarde. Et on est influencé par... ce que ces algorithmes poussent, s'ils préfèrent nous envoyer des vidéos de chats ou des vidéos de politique ou etc. etc. C'est selon leurs critères. Donc nous, notre perception du monde, elle est largement influencée par le fonctionnement de ces algorithmes et derrière, du coup, les entreprises qui les développent et leur modèle économique.
Je vois l'heure qui tourne et je me dis qu'il y aura beaucoup de frustration à la fin de cette émission parce qu'il y a beaucoup de questions, je pense qu'on n'aura pas l'occasion de te poser. Mais là, on est toujours dans la partie du nous, donc en fait du rapport au Lika. Et puisqu'il nous reste 3 minutes avant la respiration musicale, je te propose malgré tout de nous présenter un peu ce que vous faites au Lika par rapport à ces questions-là. À qui vous adressez, comment est-ce que vous adressez les questions. Et puis, il me semblait que tu avais une actualité que tu voulais nous partager par rapport à ce qui se passe au Lika.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, tout à l'heure, quand je parlais du Lika, j'ai oublié de mentionner le fait que du coup, le lien avec le tiers-lieu des transitions, c'est que ce lieu est un démonstrateur de ces sujets-là. Et en fait, les sujets dont on parle, nous, on fait de l'accompagnement, ça ressemble un peu à une forme de bureau d'études, et c'est parfois assez abstrait. Et donc le but de ce lieu-là, c'est de rendre assez concret ces sujets-là. Donc on a une programmation scientifique et culturelle pour montrer et expliquer comment tout ça marche. Et nous, notre travail au Lika, du coup, c'est... de faire de la formation pour justement acculturer les publics, les professionnels à ces sujets-là. Donc c'est pas une formation technique, le but c'est de comprendre les enjeux de l'IA et de voir qu'est-ce qu'on peut faire à chacun à notre échelle sur ces sujets-là. Et on fait de l'accompagnement, c'est-à-dire on aide comprendre dans une structure, dans une collectivité, dans une entreprise, comment aborder ce sujet de l'IA, comment s'y préparer, comment l'anticiper et comment développer, ou en tout cas se positionner par rapport aux IA de façon alignée avec les valeurs que nous on défend. Donc nous on aide nos partenaires à poser leurs valeurs et à voir comment, donc un cadre éthique on appelle ça, et comment on peut développer des IA qui respectent ce cadre éthique.
Donc je vais prendre un exemple concret pour peut-être celles et ceux qui se projettent en disant « tiens, ça m'intéresse ». Je suis une structure, par exemple la Forêt des Possibles, puisqu'on en a parlé ensemble, mais prenons un autre. Je génère de la donnée d'une manière ou d'une autre. J'ai envie de pouvoir la traiter de manière éthique j'ai envie de pouvoir la traiter de 1 parce que je pense que cette donnée a de la valeur, mais j'ai envie de pouvoir avoir une approche éthique et donc je me tourne vers le Lika et vers toi, Raphaël, pour que vous puissiez m'aiguiller. Avec quoi j'arrive et avec quoi je ressors?
Ouais. Donc, typiquement, tu vas arriver avec des questions sur l'IA qui n'est pas ton domaine, mais tu vois que ça a du potentiel sur ce que tu fais, sur tes métiers, sur ton marché, etc. Et tu n'as pas envie de te louper et de faire quelque chose qui ouais, tu vois, pourrait avoir des externalités négatives. Et donc nous, on va te guider là-dessus, déjà te former pour que tu comprennes et que tu maîtrises le sujet. Et après, on va ensemble travailler une stratégie et une feuille de route pour voir en fonction de tes moyens, donc vraiment du temps que tu peux y allouer, du budget, de ce que tu as envie de faire, comment tu vas pouvoir prendre en main ce sujet-là et t'en servir pour ton activité. Nous, on ne vend pas une solution, on n'est pas partisan de quelque chose. Donc l'idée, c'est si on peut ne pas particulièrement faire d'IA, on n'en fait pas. Mmh. Mais c'est que si y a besoin d'en faire, et surtout s'il y a besoin d'anticiper qu'il va y avoir besoin d'en faire, parce que c'est souvent ça. Nous, on parle avec par exemple des traducteurs qui disent aujourd'hui, je vois bien qu'il y a des logiciels de traduction qui un peu essaient de faire mon métier, comment on va faire ça, comment on va composer avec ça, etc. Et donc du coup, c'est travailler avec ces publics-là pour anticiper ça et essayer de le faire de façon juste. Alors ça s'appelle de façon éthique, mais en général le mot n'est pas là, et les gens nous parlent qu'ils essayent de faire de façon responsable, de façon juste, de voilà.
Et ensuite, finalement, la feuille de route, ensuite, elle peut être présentée à des développeurs en disant, bah voilà, on a posé les rails, c'est ce qu'on vous invite à développer, c'est ça?
Tout à fait. Alors, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être utiliser des solutions existantes, faire un cahier des charges, une commande publique. Enfin, en fonction de l'acteur avec qui on travaille, ça peut prendre différentes formes. Mais la feuille de route, c'est pas simplement utiliser une IA ou la développer. C'est comment ma structure... J'accompagne ma structure à monter en compétence sur ce sujet-là. Et donc, c'est des sujets de formation, c'est des sujets de monter en compétence de manière générale des équipes. En général, c'est beaucoup, beaucoup de stratégies. C'est qu'est-ce que je vais faire comme cas d'usage, combien ça va me coûter, combien j'espère que ça va me rapporter, quel va être l'impact sur mes salariés, comment je prends ça en considération, etc., etc.
Merci beaucoup, Raphaël, pour ces questions, enfin, et ces réponses. Je te propose que l'information d'actualité, tu nous la donnes à la fin de l'émission, parce que je vois le temps qui file. Il est déjà 19h32, et c'est le moment de la respiration musicale. Ce que je te propose, c'est de nous présenter ce que tu as décidé de nous faire écouter, sachant que cette fois-ci, c'est assez particulier, puisque c'est une de tes propres créations. D'habitude, les personnes nous font écouter d'autres sons, mais là, c'est le tien. Donc, qu'est-ce qu'on va écouter et pourquoi tu l'as choisi ?
Donc, comme je le disais en introduction, moi, je fais de la musique avec mon frère. On a un studio de musique ensemble et on fait de la musique pour jeux vidéo. Et il y a beaucoup de musique qu'on fait qui est de la musique électronique, etc. Et donc, je voulais vous proposer quelque chose d'autre aujourd'hui, quelque chose de plus analogique, parce que je trouvais que le sujet était très technique aujourd'hui, peut-être même un peu anxiogène. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une composition que j'ai faite dans mon studio, qui est encore dans les cartons, et qui est un duo piano et violoncelle, quelque chose de voilà assez organique et plutôt joyeux et entraînant. Et je trouvais que c'était pas mal pour la respiration.
C'est une exclusivité mondiale sur l'émission de La Forêt des Possibles en direct de 19h à 20h sur Radio Galère. On se retrouve juste après avec Raphaël Torres. pause imaginaire. Vous êtes de retour sur Radio Galère. C'est hyper agréable de parler avec un petit fond sonore. Nous sommes toujours en direct de 19h à 20h dans l'émission de La Forêt des Possibles qui donne la parole aux acteurs et aux actrices de transition écologique et solidaire à Marseille et ses environs. Et ce soir, c'est Raphaël Torres d'Ulica qui vient nous parler d'éthique éthique et de son approche politique. Et ça va d'ailleurs être toute la deuxième partie de cette émission qui va être sur finalement en quoi la question de l'IA, je dis l'éthique éthique, ça ne veut strictement rien dire, en quoi est-ce que l'IA éthique est résolument un enjeu politique. Et donc, on va un peu couper ça en deux parties. La première, ça va être de présenter un certain nombre de problématiques, notamment sur les enjeux politiques et géopolitiques qui sont autour de l'IA. Et dans un deuxième temps, eh bien, on va se projeter dans des imaginaires réjouissants qui sont beaucoup plus réjouissant que ce qu'on verra dans la première partie. Moi, si jamais je l'ai noté en tant que quidam qui ne connaît pas ces questions, je vois des enjeux de souveraineté liés à l'IA. On le voit en ce moment avec les États-Unis, avec les GAFAM qui sont en train de suivre Donald Trump pour une partie d'entre eux, notamment Meta, notamment Twitter, et avec ce que ça peut impliquer pour l'Europe qu'il n'y ait pas de convergence d'intérêts. C'était déjà pas spécialement toujours le cas avant, mais ça restait des rapports d'alliés. Là, c'est pas toujours sûr qu'on continue à être réellement allié avec les Américains. Donc, qu'est-ce que ça a comme incidence que la donnée ne soit pas stockée chez nous ? Ça, c'est la première chose que je vois. La deuxième que je vois en matière de questionnement, c'est sur des enjeux de clarté, d'intelligibilité et on peut dire aussi de pacification du débat public avec le fait que, bah, comme tu le disais avant l'émission, les algorithmes peuvent nous amener dans telle ou telle représentation du monde et surtout quand des personnes comme Elon Musk ont tendance à vouloir pousser un certain nombre d'idées plutôt que d'autres. Et donc finalement, est-ce qu'il y a une sorte d'éthique dans la juste représentation des avis politiques ? Et puis ensuite, il y a des enjeux aussi liés à l'impact, le fait que ça soit extrêmement lourd, on ne le voit pas, on peut penser que c'est numérique, mais en réalité, ça a des incidences énormes sur la biodiversité, sur l'utilisation de l'eau, sur l'utilisation des métaux, sur la question de comment est-ce qu'on arrive à maintenir des gigantesques infrastructures qui nécessitent beaucoup d'énergie et beaucoup de capacités de refroidissement. Je te laisse rebondir là-dessus, et puis peut-être qu'il y a encore d'autres problématiques qui sont autour de l'IA dans le débat public et dans les enjeux politiques.
Ouais, allez, tellement de choses à dire dans tout ce que tu as évoqué. Peut-être pour commencer quelque part, je peux rappeler ici les trois axiomes un peu qu'on a au LICA quand on travaille sur ces sujets d'IA. Donc quand on accueille des publics, quand on fait des ateliers, des formations, etc. Et le premier d'entre eux, c'est le fait que l'IA, ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet de société. Et ça peut paraître parfois évident de l'entendre, enfin aujourd'hui peut-être plus qu'avant, je sais pas, mais on a trop souvent eu ce rapport un peu techno-solutionniste de dire de toute façon c'est un outil, il est neutre, on va l'utiliser, on va trouver des solutions avec, etc. Et quand on fait ça, on se coupe de toute une partie de l'enjeu et du sujet qui est qu'en fait c'est ce qu'on appelle des systèmes socio-techniques, c'est-à-dire des systèmes qui embarquent avec eux une compréhension du monde, qui sont développés par des acteurs et qui utilisent des bases de données qui ont des certains types d'informations, qui ne sont pas neutres, etc. Et donc, du coup,
est-ce qu'on pourrait donner comme exemple, pour qu'on puisse se représenter ce que tu nous dis, par exemple, le nucléaire ? Se dire qu'au début, on pouvait considérer le nucléaire comme étant un pur outil technique au service de la société, puis finalement, les usages qui en ont été faits permettent de créer de l'énergie, mais aussi de la pure destruction massive, et donc finalement, ça devient un enjeu de société, parce que toute la société est obligée de s'adapter en fonction de cet outil qui arrive.
Oui, effectivement, il y a le côté usage d'une technologie, d'une invention, et en fonction de l'usage, on va en faire des choses très différentes. Et donc ça, c'est similaire au nucléaire. Mais il y a aussi le fait que l'IA, et ça c'est un peu propre à cette techno-là, embarque une façon de faire, je ne rentrerai pas dans le détail technique, mais qui est hautement biaisée, c'est-à-dire qui a sa propre... façon de voir le monde. Et quand vous posez des questions à ChatGPT, ChatGPT vous répond selon sa compréhension du monde. Et sa compréhension du monde, elle est pas neutre. Et ça, c'est important parce qu'on se le, on a tendance à l'oublier. De la même manière, quand on est sur Facebook, quand on est sur Instagram, les contenus qui nous sont partagés sont partagés avec une certaine intention, une certaine polarisation. Et alors, j'ai plus la statistique, mais c'était plusieurs dizaines de pourcents de Français, peut-être, je sais pas, 20 ou 30%, j'ai plus la statistique, qui pensaient que le mur Facebook était le même pour tout le monde. Et ça, ça représente bien cette idée que parfois, on a tendance à oublier que les solutions d'IA sont, sont vraiment colorées. Colorées dans le sens, elles sont orientées d'une certaine manière.
Et surtout pour faire un lien avec l'actualité directe, Meta vient d'annoncer qu'ils souhaitaient supprimer leur capacité de faire du fact-checking, mais davantage d'être sur une approche de noter les contenus, ce qui fait qu'il suffit qu'une communauté très agissante décide de très bien noter certaines formes de contenus pour que ça puisse dériver de cette ou telle manière. Et on a aussi Elon Musk avec Twitter qui décide de pouvoir biaiser son algorithme pour davantage mettre en valeur un certain nombre d'opinions politiques qui sont les siennes. On l'a vu faire un salut fasciste cette semaine. Et donc là-dessus, on voit finalement qu'il y a un peu comme des personnes qui seraient comme des joueurs d'échecs ou qui tiraient les ficelles d'un certain, enfin, qui tiraient les ficelles d'une façon d'organiser le débat.
Oui. Et c'est vrai que je pense que l'exemple d'Elon Musk, il est très parlant, par exemple. Donc pour essayer de repartir un peu de notre quotidien à tous et à toutes, on a tous et toutes la flemme de cliquer non sur les cookies, de faire attention à ce qu'on envoie dans nos contenus et dans nos recherches web, avec ce avec quoi on communique avec ChatGPT, etc. Cette notion de donner des données à des acteurs privés, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop dans notre prisme, parce qu'on ne voit pas tellement la réalité, on ne voit pas l'impact que ça. Et on ne voit pas très bien si j'accepte de donner des cookies, si j'accepte de donner des informations à ChatGPT, etc., etc., quel impact que ça aura. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui se passe avec l'actualité, avec Elon Musk notamment, elle est assez intéressante sur ce sujet-là. Parce que quand je communique avec ChatGPT, et on voit aujourd'hui, il y a plein d'exemples, plein d'articles de gens qui disent, par exemple, j'ai fait un suivi psychologique avec ChatGPT, c'était mon psy, ça m'a aidé à m'en sortir, donc partager des informations très intimes. Et qu'on a ChatGPT qui est une solution de OpenAI, et que OpenAI, c'est Elon Musk derrière. On a Elon Musk qui fait un salut fasciste. Enfin, en tout cas, il y a des discussions par rapport à ça. Mais du coup, on commence à avoir un peu un petit problème, à dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir partagé mes informations intimes, personnelles, avec quelqu'un qui fait un salut. Donc voilà, avec une solution développée par une entreprise qui est représentée par quelqu'un qui fait un salut.
Surtout que finalement, il peut avoir un profil psychologique extrêmement fin de chacune d'entre nous.
Absolument. Et là, j'en viens à quelque chose d'un peu moins individuel, un problème plus de masse, de polarisation du débat public, où, par exemple, du coup, on a eu Cambridge Analytica qui a été un scandale, où dans la première campagne de Donald Trump, les données qu'on partageait avec Facebook ont été utilisées pour comprendre quels étaient les profils qui ne savaient pas trop pour qui voter, pour que ce soit les premières personnes ciblées dans les campagnes, je ne sais pas si on peut appeler ça du marketing, mais en tout cas qui est ciblée par l'équipe de campagne de Donald Trump pour qu'on vote pour lui. Et donc ça a été condamné. Et aujourd'hui, on voit Trump et Elon Musk qui font des alliances, de nouvelles formes d'alliances. Donc on peut se poser la question de, voilà, aujourd'hui, ce qu'on fait avec ChatGPT, est-ce que ça va avoir les mêmes finalités? Et toute l'information qu'on partage avec ChatGPT tous, elle est ultra pertinente. C'est difficile d'avoir cette même information autrement que via cet outil-là. Quoi.
Quand je t'écoute, ça fait vachement penser à 1984 de George Orwell, et ça fait vachement penser finalement à cette sorte de surveillance permanente, y compris finalement des mœurs et des aspirations les plus intimes, peut-être des choses qu'on n'a pas forcément très envie de pouvoir partager, ensuite qui pourraient être reprochées d'une manière ou d'une autre pour pouvoir contenir du débat politique. Et là, on est dans une dystopie qui est quand même assez négative. Et pourtant, quand on préparait l'émission, un des gros points que tu as abordé tout le long, c'était le fait de faire émerger d'autres imaginaires, des imaginaires qui soient plus réjouissants. Je vois Elissa qui nous écoute depuis tout à l'heure avec un visage qui s'est crispé quand on a parlé d'un certain nombre de sujets qui sont assez anxiogènes. Et donc, ce que je te propose, c'est justement d'être dans une approche qui soit volontariste vers des imaginaires souhaitables. Ceci est une carte blanche. Donc, une fois qu'on a dit ça, je te laisse t'en saisir pour nous partager ce qui te vient à l'esprit.
C'est vrai que jusqu'ici, les exemples qu'on a principalement donnés sont des exemples d'IA utilisés par les GAFAM. Les GAFAM qui poussent une représentation, un imaginaire autour de l'IA, qui est bien particulier. Et on a souvent tendance, vu que c'est quand même les acteurs, des grands acteurs économiques, on a tendance à y voir leur discours et l'imaginaire qu'ils véhiculent comme le seul et unique imaginaire possible, en se disant l'IA, c'est l'image véhiculée et la vision portée par ces acteurs-là. Vision qui est poussée pour des raisons aussi qui défend ces acteurs privés-là, donc qui sont des enjeux économiques, des enjeux politiques, etc. Mais il existe effectivement d'autres imaginaires à donner, d'autres façons de voir l'IA et de penser l'IA. Aujourd'hui, on peut imaginer des IA au service de la transition, par exemple. Ça, c'est quelque chose auquel on a du mal à se connecter de prime abord. C'est pas forcément quelque chose qui paraît évident, mais on peut imaginer une IA qui sert ce projet politique. Et je dis, en fait, comment on pourrait utiliser des IA au service de la transition écologique, comment on pourrait utiliser des IA au service de la transition sociale, et ça existe. Il y a des solutions qui existent pour ça. Alors, ce sont pas forcément les plus connus, etc. Mais c'est possible. Pour donner deux exemples de ça dans le domaine de l'action publique, par exemple, on a la métropole de Nantes qui utilise aujourd'hui de l'IA pour la gestion dans les cantines de... j'ai le mot qui m'échappe, mais...
Le gaspillage alimentaire.
Du gaspillage alimentaire, merci. pour réduire le gaspillage alimentaire. Et depuis qu'ils l'ont mis en place, c'est, je ne sais plus, 5-6% d'aliments non gaspillés, ce qui correspond à l'échelle d'une métropole à des milliers de plats, hein, par semaine. C'est un truc énorme, parce qu'ils regardent en fonction de plein de paramètres, en fonction des menus, du calendrier, de plein d'informations. Ils prédisent les quantités qu'il va falloir produire de façon fine et donc du coup de réduire le gaspillage. Ça, c'est un exemple possible. On a aussi...
C'est un sujet qu'on avait abordé avec Écosphère d'ailleurs pour faire un peu le lien entre les personnes qu'on reçoit à la radio. Mais vas-y, je te laisse continuer. Je vois que Félix aura une question à un moment.
Ok. J'ai un autre exemple qui m'est venu, qui n'est pas du coup d'une collectivité. Du coup, ça fera un exemple aussi d'un acteur privé qui s'appelle Unbias. Ils sont à Nice. Et eux, ce qu'ils font, c'est un correcteur de sexisme ordinaire. Donc un peu comme un correcteur orthographique sur votre ordi, sauf qu'au lieu de corriger les fautes d'orthographe, ils corrigent les fautes de sexisme ordinaire. Donc par exemple, si vous écrivez qui est le chef de famille, il va vous proposer qui est la personne responsable dans la famille, par exemple. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez corriger ou pas, etc. Mais il peut analyser des corpus de texte et savoir s'il y a des biais sexistes dans ces corpus, etc. Donc c'est un exemple de solution d'IA au service d'une transition sociale, une transition un peu plus un peu moins discriminante.
Et du coup, moi j'ai une petite question par rapport à ces exemples que tu nous donnes, surtout typiquement par l'exemple des cantines. En fait, si je comprends bien, mais tu me corriges si je me trompe, dans un IA, tu as un peu trois paramètres qui déterminent la qualité de l'IA. Tu vas avoir la puissance de l'ordinateur sur lequel tu vas faire tourner ton algorithme, la qualité des algorithmes, et on en a pas mal parlé, la quantité d'informations que tu vas lui fournir dans sa phase d'apprentissage. En fait, ma question, c'est comment est-ce que tu réussis à être, pas forcément en compétition, mais juste pertinent avec un minimum d'informations, puisque finalement, j'imagine que les cantines scolaires de Nantes, c'est pas non plus des millions et des millions d'images, c'est pas non plus des tonnes et des tonnes de mégaoctets, de gigas, de téraoctets de données. Voilà, quoi, par exemple, par rapport à ce que pourrait récupérer un acteur type GAFAM, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors, quand on développe une solution comme ça sur un territoire comme celui de la métropole de Nantes, donc moi j'étais pas impliqué dans le développement, mais j'imagine, on réinvente pas la roue et on utilise des solutions qui sont déjà existantes, et donc du coup on va utiliser des modèles qui ont déjà été entraînés sur des énormes bases de données, qu'on va les spécialiser et paramétrer sur notre réalité, sur notre territoire. Effectivement, la réalité des cantines de la métropole de Nantes, c'est peut-être pas celle sur laquelle on a des données, par exemple, comme aux États-Unis, etc. Mais on peut partir d'un modèle déjà existant et préciser, et ce qu'on appelle faire du fine-tuning, pour aller sur la réalité d'un terrain. Et ça... Et peut-être que j'anticipe un peu sur la suite des questions sur la notion d'empreinte écologique aussi. L'avantage de ça, c'est que ça permet de ne pas réentraîner totalement un modèle et de faire tourner des énormes bases de données, etc. Parce qu'on essaie de mutualiser ce qui a déjà été fait, de prendre quelque chose qui marchait déjà à peu près et de le spécialiser, etc.
Ok, donc si je fais un petit parallèle, mettons qu'avec un acteur type GAFAM, tu as récupéré plein d'images de chevaux et de zèbres et tu vas essayer de distinguer les chevaux des zèbres. Tu vas récupérer des images qui sont juste des pixels, avec des couleurs associées à chaque pixel, ça a énormément d'informations que tu ne vas pas filtrer. Par exemple, quand tu essayes d'entraîner ton IA qui t'aide à réduire le gaspillage alimentaire, tu vas en fait rentrer des paramètres, tu vas dire « Ok, le menu, c'était ça ». Et en fait, par exemple, tu vas comprendre que les enfants, ils aiment moins les épinards, je grossis un peu le trait, mais tu vas pré-filtrer l'information, c'est ça qui te permet de donner une information plus pertinente, et donc du coup, avec un set réduit de données, d'entraîner quand même un peu mieux, enfin au mieux, ton IA, ou j'ai déformé un peu le propos?
Non, j'essaie de... Par exemple, si je voulais que dans la métropole Nantes, on différencie les chevaux des zèbres, par exemple, je prendrais déjà quelque chose d'existant avec plein de chevaux et de zèbres, qui a déjà été existé, mais ça... Tout ça, ça a été déjà entraîné, donc je ne vais pas réinventer la roue, je ne vais pas reprendre tous ces pixels-là, je vais prendre le résultat de tout ça. Ça, on appelle ça un modèle. Je vais prendre ce modèle-là et je vais montrer quelques chevaux et quelques zèbres qu'il y a à Nantes, parce que les chevaux et les zèbres de Nantes, ils sont hyper différents. Et je vais finir d'entraîner comme si j'avais appris à un enfant à différencier les chevaux des zèbres, et je lui montre quelques exemples à Nantes de chevaux et de zèbres pour qu'il comprenne qu'ici, c'est ça en fait à quoi ça ressemble vraiment un cheval et un zèbre. Et voilà, je m'arrête là.
Ok, super. Merci.
Tout à l'heure, tu mentionnais la question de l'impact, Raphaël. On va frustrer celles et ceux qui nous écoutent. On ne va pas avoir le temps d'en parler parce que l'émission se termine d'ici 4 minutes. On va terminer sur la question surprise, la question que nous posons à toutes celles et ceux qui passent à ce micro, qui est inspirée par une personne que tu connais bien, qui s'appelle Arthur Lanterre des 2030 Glorieuses. Et alors, pas obligé de mettre tout de suite la fin. Il reste encore quelques minutes. Et qui est aussi associé à un wiki qui est associé à cette émission qui s'appelle L'Arbre des Imaginaires. C'est finalement le fait de promouvoir des nouveaux imaginaires et de se projeter. Et donc la question, c'est de se projeter à Marseille en 2030. Et donc ce que je te propose, c'est de fermer les yeux 30 secondes et de pouvoir imaginer en 2030 que, en fait, ce pourquoi tu es en train de te battre maintenant, de t'engager, vous avez réussi, on a réussi, tu as réussi, nous avons réussi. Et j'aimerais d'abord que tu ressentes ce que ça provoque comme sentiment, que tu partes de ça, et que par rapport ensuite à ce sentiment-là, ensuite tu te promènes. Tu te promènes dans le jardin du Lyca, et puis tu sors du Lyca et tu vas à Marseille. Et tu fais attention au bruit, aux odeurs, aux relations qu'il y a autour de toi. Et puis, quand tu auras cette image, j'aimerais que tu puisses rouvrir progressivement les yeux et que tu nous la présentes. Parce que le but de la forêt des possibles, finalement, c'est de se projeter dans un monde où c'est possible, et que tu nous la présentes en lien aussi avec ce que tu nous as présenté jusque-là. C'est en quoi l'IA éthique aura servi cette vision.
Wow.
Et ouais, grosse question.
Vaste. Hein. Il nous reste 3 minutes. Ok. La première chose que j'imagine et que je vois quand on parle de ça, c'est de me promener sur la Canebière et de voir qu'il y a beaucoup plus de bancs qu'avant, en tout cas de bancs utilisés, et d'avoir des gens qui régulièrement, qui se connaissent pas, qui s'assoient, qui discutent ensemble, parce qu'on a réussi à réduire la polarisation du débat, à réduire les bulles les bulles filtrantes qu'on a sur nos réseaux, sur un peu la façon qu'on a d'accéder à l'information, et les gens arrivent plus facilement à se mettre dans la peau des autres, à comprendre les opinions des autres, avoir des opinions aussi plus nuancées et à échanger. Et là, du coup, on a une bière beaucoup plus bavarde où les gens discutent, les gens échangent parce qu'ils sont beaucoup moins dans leur bulle, dans leur réalité. Et ça a une chouette allure.
Merci beaucoup pour cette projection d'une canne bière démocratique. D'une canne bière bavarde. Et quand on préparait l'émission, tu nous disais aussi qu'il y avait un certain nombre d'informations que tu voulais partager, des actus, parce que finalement tu es aussi venu pour présenter le LICA et vous avez une programmation riche, foisonnante, et notamment sur tes projets. Donc je te laisse cette carte.
Super. On a effectivement donc une actu brûlante, puisqu'il s'agit de samedi qui arrive. On accueille au LICA, et vous êtes tous et toutes les bienvenus, le MUCEM pour préparer donc on fera la commission d'enquête le samedi après-midi pour préparer le procès du siècle qui aura lieu le lundi au MUCEM et dont le sujet est IA éthique, IA mystique. Et donc pour celles et ceux qui ont trouvé la discussion d'aujourd'hui intéressante et qui voudraient participer, ils sont le bienvenu, donc ils peuvent nous regarder cette info sur nos réseaux, sur le LICA, sur Instagram, etc., sur LinkedIn, tout ce qu'ils veulent. Et voilà, ils sont bienvenus pour venir échanger le samedi après-midi là-dessus, avec moi-même et des membres du MUCEM. En autre actualité, j'aurais aimé partager le fait qu'on fait, donc, du coup, comme je le disais, de la formation. On forme sur piloter des projets d'IA, c'est-à-dire comprendre comment l'IA fonctionne et comment je peux monter des projets d'IA dans mon entreprise, et maîtriser des outils d'IA, c'est-à-dire savoir comment je peux utiliser quel outil de façon éthique et tout ça. Et donc on a toute une programmation de formation, et donc si des gens sont intéressés pour être formés, pareil, je les invite à aller sur notre site web ou sur nos réseaux à nous suivre pour voir les prochaines dates. On en a en mars, on en a en juin, et je serais hyper content de pouvoir former plus de monde sur ces sujets, parce que je pense que c'est un enjeu vraiment de société, qu'on y aille collectivement.
Et puis au-delà de votre site internet, tu nous disais que vous étiez associé à un lieu, le Tier Lab de Transition, qui se trouve au 15 boulevard
L'église,
au Chute-la-Vie. Voilà, donc par rapport à la friche de la Belle de Mai, c'est juste au-dessus, pas très loin d'ici, à 10 minutes à pied. C'est un magnifique endroit. J'imagine que les mimosas sont en fleurs en ce moment.
Les mimosas arrivent, effectivement. Et c'est ouvert tous les midis. Et on a un restaurant solaire qui s'appelle Le Présage. Et donc si vous voulez venir passer, prendre un café, manger quelque chose et cueillir des mimosas, c'est tout à fait possible.
Présage qu'on avait reçu à la radio il y a maintenant 3 ans, parce que tout s'entremêle dans ce riche écosystème. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci
pour cette émission absolument passionnante. Merci à Mathieu, Félix pour avoir assuré la régie. Merci à Claire et merci à Elissa, dont c'était la toute première et on l'espère pas du tout la dernière. À bientôt, c'est l'invité de la semaine prochaine.
La semaine prochaine, ce sera L'Incassable avec Elissa en animatrice en chef.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bonne soirée.
Bonne soirée. Bonne soirée. Hey.